Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des frappes simultanées ce matin sur Téhéran, en Iran, mais aussi au Liban, menées par Israël au quatrième jour d'une guerre qui s'étend au Moyen-Orient. Nous irons à Beyrouth dès le début de ce journal, frappé aux premières lueurs du jour. Nous serons également à Washington, où Donald Trump promet une nouvelle vague de bombardements sur l'Iran et n'exclut pas l'envoi de troupes au sol. Enfin, des peines pas plus lourdes, voire même allégées pour trois des quatre hommes rejugés en appel au procès de l'assassinat de Samuel Paty.
Le Liban, une nouvelle fois visé ce matin par Israël.
De violentes explosions entendues tôt ce matin dans la capitale, Beyrouth, sur place et en direct. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial RMC. Des frappes ciblées contre le Hezbollah qui se multiplient depuis plus de 24 heures maintenant.
Oui, les habitants ici les comptent par dizaines près de l'ambassade iranienne, de l'aéroport hier soir. Beyrouth s'est réveillé ce matin au son des bombes lancées sur sa banlieue sud, le quartier où vivent majoritairement les membres du Hezbollah. Une épaisse fumée grise s'élève dans le ciel. Le son des avions militaires, des drones, pèse sur le moral de certains. Il y a de la résignation aussi chez Maria, une infirmière de 21 ans.
Ma famille vit dans le sud du pays et moi je suis forcée de rester ici pour le travail. C'est dur de voir les gens perdre leur maison, leur travail, des familles déchirées. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. J'étais là il y a 2 ans, j'espérais que ce serait la dernière guerre, mais je savais que ça pouvait arriver de nouveau. Je suis triste et déçue, je suis triste pour mon pays, vraiment.
Des frappes donc sur Beyrouth, mais Téhéran également, des frappes menées par Israël. Action militaire justifiée cette nuit par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'est exprimé cette nuit dans une interview à la chaîne américaine Fox News, Marion.
Oui, il l'a justifié par le développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques iraniens. Le Premier ministre israélien assure que l'Iran avait commencé à construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains qui auraient bientôt été intouchables. « Vous n'allez pas avoir une guerre sans fin », a tout de même insisté Benjamin Netanyahou. « Cela pourrait prendre du temps, dit-il, mais pas des années ».
Marion Gauthier, envoyée spéciale RMC à Beyrouth en direct ce matin. Autre prise de parole, celle de Donald Trump qui promet de répondre à l'incendie de l'ambassade américaine à Riyad, cible de drones iraniens. Les États-Unis affirment ce matin avoir détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution. Et ce n'est pas fini. Antoine Lard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. Le président américain hausse le ton et avertit l'Iran que le pire est à venir.
Oui, on voit que Donald Trump montre les muscles. Il dit que l'Iran n'a encore rien vu et promet que la grosse vague de bombardements reste à venir. Pour bien montrer sa détermination, le président fait savoir qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Pour le moment, ça n'est pas du tout d'actualité, mais Trump dit que si c'est nécessaire, il le fera. Ce sujet est très sensible pour l'opinion publique américaine et cette déclaration, c'est avant tout un message pour Téhéran, une façon d'afficher qu'il est prêt à aller au bout. Le président qui détaille enfin les objectifs de cette opération. Alors qu'il y avait beaucoup de flou à ce sujet ces derniers jours, Trump désormais définit 4 objectifs. Détruire tous les missiles iraniens et les usines qui les produisent, anéantir la marine, pas d'armes nucléaires et faire enfin en sorte que l'Iran ne finance plus les groupes terroristes. Trump ne parle plus de changement de régime et assure que les opérations pourraient se poursuivre au-delà des 4 à 5 semaines qu'il avait annoncées.
Une guerre avec ses conséquences économiques importantes à l'échelle mondiale, conséquence du blocage du détroit d'Ormuz. L'Iran menace de brûler tout navire qui s'aventurerait dans cette zone maritime incontournable de la région, voie de passage stratégique, Cassandre Bro, pour le pétrole et le gaz.
Oui, car les principales réserves de gaz mondiales se trouvent dans les sous-sols du Qatar et de l'Iran. La conséquence sur les marchés est donc inévitable, selon Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie.
Ça va se voir sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, ça va se voir sur tous les prix de ces matières premières énergétiques. Donc on va avoir une crise assez forte.
Des inquiétudes sur le secteur de l'énergie, mais pas seulement. L'arrêt total du trafic dans le détroit d'Ormuz pénalise grandement le commerce maritime, selon Bruno Desmoura Fernandez, responsable macroéconomie chez Coface.
C'est un grand problème pour le commerce mondial parce que les bateaux devaient, au lieu de passer par là, faire le tour de l'Afrique et ça rajoutait entre 9 et 14 jours. Donc c'est considérable et ça augmente les coûts, etc.
D'autant que ce conflit arrive après l'offensive de Donald Trump sur les droits de douane, après le Covid et la guerre en Ukraine.
Le commerce mondial, il est clairement chahuté. Il y a une multiplication des impacts sur le commerce mondial. Si ça dure, il est probable qu'on ait vraiment de l'inflation.
En France, le ministère de l'économie va rencontrer quotidiennement les dirigeants des secteurs concernés par la guerre au Moyen-Orient. Tant que la crise sera à ce pic d'intensité.
Enfin, notez que le trafic aérien reste toujours perturbé ce matin dans les pays du Golfe. Quelques avions ont pu tout de même décoller comme à Abu Dhabi où un vol a permis à près de 250 Français de rejoindre Paris hier soir. Vous entendrez leur soulagement dans le journal de 7h30. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a présenté la nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire de la France. Dissuasion avancée associant 8 pays européens. Ils n'auront pas le pouvoir de décision ultime, prévient le chef de l'État qui précise que la France restera souveraine en la matière pour être libre. Il faut être craint, dit le président qui annonce la construction d'un nouveau sous-marin lanceur d'engins et l'augmentation du nombre de têtes nucléaires sans en préciser le nombre. Il est 7h06, vous écoutez RMC. 4 hommes condamnés en appel hier au procès de l'assassinat de Samuel Paty, des peines de 6 à 15 ans de prison prononcées tard hier soir après plus d'un mois de procès. Ils étaient rejugés pour leur rôle dans la mort du professeur d'histoire-géographie en 2020, accusé d'avoir mené une campagne de haine en ligne contre le professeur. Pierre Bazin, service police-justice RMC, des peines qui n'ont pas été alourdies, au contraire.
Oui, parmi eux, seul le prédicateur Abdelhakim Sefrioui a été condamné à la même peine qu'en première instance, 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats ont annoncé qu'ils comptaient se pourvoir en cassation. Tous les autres voient leur condamnation allégée en appel. Brahim Chnina, le parent d'élève qui avait multiplié les vidéos sur les réseaux sociaux visant Samuel Paty, voit sa peine passer de 13 à 10 ans de prison en appel. Enfin, pour avoir fourni des éléments de logistique et avoir conduit Anzorov sur les lieux de l'attentat, les deux autres hommes qui étaient également poursuivis, ses deux amis, ont vu leur peine largement réduite en appel, condamnés tous les deux à 16 ans de réclusion criminelle en première instance. La cour spécialement constituée les condamne à 6 et 7 ans de prison. Il leur reste donc quelques mois de détention puisqu'ils sont incarcérés depuis plus de 5 ans tous les deux.
Évoquant une hospitalisation à Genève, Tariq Ramadan n'était pas présent hier à l'ouverture de son procès à Paris. Une expertise a donc été ordonnée par la cour criminelle avant la reprise de l'audience cet après-midi. Le prédicateur doit y être jugé pour 3 viols. Le propriétaire de Curtis, jugé pour homicide involontaire à partir d'aujourd'hui. Curtis, c'est le nom de ce chien, soupçonné d'être à l'origine de la mort d'Elisa Pilarski, mordue par l'animal de son compagnon. Elle avait été retrouvée sans vie dans une forêt de laine en 2019. Et puis un chiffre maintenant, 1,2 milliard. C'est en euros le coût de la première estimation des dégâts des tempêtes Niels et Pedro qui ont balayé l'ouest du pays en février. C'est le résultat d'une estimation de France Assureur. Et puis un mot de la Coupe de France avec le début des quarts de finale. Strasbourg reçoit Reims à 21h. Ce soir, ce sera à vivre bien évidemment sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer.